Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 4, s'il vous plaît. C'est un passage que nous connaissons tous très bien. Pour nous situer dans le contexte, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Il est sur sa fin, il est sur le point de partir, et il est en train de donner ses dernières recommandations à ses disciples. Et il dit beaucoup de choses dans le chapitre 15. Mais il y a cette parole qui est très importante qui dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous avons commencé depuis maintenant un mois une série que nous avons intitulée l'adoration, le secret des amis intimes de Dieu. Et comme je le disais au début du mois, c'est cet enseignement-là qui allait nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait comprendre que l'adoration est quelque chose d'extrêmement important. L'adoration, c'est bien plus qu'une prière. L'adoration n'a rien de religieux. L'adoration n'est pas un acte religieux. L'adoration n'est pas un chant. Bien qu'on puisse chanter des chants d'adoration ou de louange. Mais l'adoration est une attitude, des actes, une attitude de cœur, une disposition de cœur. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses. Et le Seigneur nous a mis à cœur de continuer sur cette lancée-là et d'aller et de rester dessus. Parce que même quand on écoute les... Parce que moi, je prends le temps de réécouter les enseignements pendant la semaine. Je prends aussi le temps de discuter avec les gens. Je prends aussi le temps de répondre aux questions que les gens posent. Et la plupart des gens, quand on les écoute, et c'est ça qui est très dangereux avec les chrétiens ici, c'est que quand on écoute les gens cherchent le sensationnel. Les gens cherchent le prophétique, si je peux appeler ça comme ça. Les gens cherchent des choses qui vont les stimuler, mais les gens refusent de se pencher sur ce que Dieu appelle l'essentiel. Les choses simples. Jésus-Christ enseignait des vérités très profondes au travers d'images très simples de la vie de tous les jours que nous appelons les paraboles. D'accord ? Et c'est au travers de choses très simples que nous avons enseignées ici depuis plusieurs semaines qu'on enseigne des choses très profondes concernant notre relation avec Dieu. Le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas les beaux discours que font les pasteurs dans les églises le dimanche, ou bien les événements auxquels on peut participer, ou bien la panoplie de livres que tu peux avoir dans ta bibliothèque. Ce n'est pas ça qui fera que tu seras très spirituel. Et on ne peut pas. Et j'aime souvent dire qu'on n'est pas plus spirituel que le Saint-Esprit. D'accord ? Le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et nous, à la maison du bâtisseur, et c'est pour cela que l'église s'appelle la maison du bâtisseur. Le mot maison fait référence à un cadre intime et familial. Et le mot bâtisseur, il n'y a pas de S, la maison du bâtisseur, parce que le Saint-Esprit est le bâtisseur. Et quand on bâtit quelque chose, on commence toujours par la base. On commence toujours par la base. Si tu veux construire un ministère, si tu veux construire un ministère prospère, et accompli avec le Seigneur, il faut que la base soit posée. Et la base, c'est la relation que nous avons au quotidien, tous les jours avec Dieu. Amen. Et quand je prends le temps de parler avec les chrétiens, quand je prends le temps de discuter avec les enfants de Dieu dans les églises, je parle beaucoup avec d'autres frères qui sont dans d'autres assemblées, etc., je me rends compte, et parfois ça me fait un peu peur, je me rends compte que beaucoup n'ont pas les bases. Beaucoup cherchent le stimulus, beaucoup cherchent le sensationnel, beaucoup sont dans le prophétique, beaucoup sont ils cherchent la révélation, ils cherchent, enfin, Mais quand on regarde leur vie, ils ne prient pas. Quand on prie avec eux, quand on passe des moments ensemble dans la prière, ils n'arrivent même pas à t'aligner 5 phrases cohérentes dans la prière. C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ce sont des gens qui ne prient pas. Ce sont des gens qui n'ont pas une relation profonde et intime avec Dieu. Nous connaissons, mon épouse et moi, des gens qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont des serviteurs de Dieu, qui ont des assemblées. Mais quand on regarde leur vie, ils ne prient pas. Et un jour, je parlais avec un pasteur et je lui dis, mais comment tu peux être pasteur de ton église et ne pas prier? Il faut que tu pries, frère. Comment tu vas entretenir les brebis? Comment tu vas entendre la voix de Dieu? Comment tu vas pour... Et tu viens, tu fais des choses, tu prends des décisions, des orientations, mais tu ne pries pas. Tu es trop occupé, tu es dans les activités, ton planning est tellement rempli que tu n'as même pas le temps de passer du temps avec Dieu. Mais quand on regarde l'histoire, les gens qui ont fait des exploits avec Dieu, les Dwight Moody, les Charles Wesley, les Smith Wigglesworth, des gens qui ont vraiment marqué, qui ont marqué leur génération en faisant de très grandes choses avec le Seigneur, quand on regarde leur vie, c'était des gens, leur secret, c'était la présence les temps qu'ils passaient dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait comprendre que nous devons rester sur ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que 2014, le Seigneur nous a montré beaucoup de choses. 2014 annonce beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de programmes que nous voulons mettre en place. Mais il faut qu'on ait les directives. Il faut que spirituellement on soit affermis. Il faut qu'on soit connecté avec Dieu. Et l'adoration, Dieu nous a emmenés dans l'adoration parce que l'adoration occupe une place extrêmement importante dans la relation que nous avons avec lui. Le secret des amis intimes. À la fin de l'année, la semaine surprochaine, c'est le 31 décembre, ce sera un mardi soir, c'est le mardi soir je crois. Nous allons être ici de 21h à minuit, pour ceux qui veulent être là, ils peuvent être là. Mais nous n'allons pas chercher le sensationnel. Moi, je refuse qu'on cherche le sensationnel. Beaucoup vont être dans la fête, dans les cris, etc. Mais nous, ce n'est pas notre saison. À la maison du bâtisseur, ce n'est pas la saison de pousser, de se réjouir. La saison dans laquelle nous sommes est une saison où, pour pouvoir commencer à poser les premières pierres pour l'accomplissement de la vision, nous devons chercher sérieusement Dieu. On a tout le temps pour faire la fête. On a les moyens pour faire la fête. On a les moyens pour organiser tout un tas de choses. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas la priorité. Je regardais un jour l'interview d'un serviteur de Dieu d'une très grande église aux États-Unis qui a pour habitude d'organiser toujours un grand événement chaque année qui rassemble plus de 200 000 personnes en une journée dans un grand stade à Atlanta. Et chaque année, quand il organise l'événement, c'est toujours un succès. Et il y a une année où il a annoncé à l'église que l'événement n'allait pas avoir lieu. Et quand on lui demande pourquoi, parce que tout simplement, ils étaient en train de rentrer dans une nouvelle phase avec l'église. Et quand il allait chercher la face de Dieu, Dieu lui a dit, tu annules ton événement. Mais cet événement qui rassemble énormément de foule, qui brasse je ne sais pas combien de millions de dollars chaque année, si tu regardes à ça, si tu regardes aux foules, à l'argent, aux compliments que les gens vont te faire, etc., tu vas quand même organiser ton événement. Mais Dieu t'a dit de ne pas l'organiser. Donc lui, pour s'assurer que Dieu, c'était bien Dieu qui lui avait parlé, elle retourna, parce que c'est une servante de Dieu plutôt, elle retourna dans la prière, elle se mit dans le jeûne, elle s'enferma, elle s'est enfermée pendant 3 jours, sans manger ni boire, dans la pièce en question, pour écouter la voix de Dieu. Et elle a encore entendu à nouveau, Dieu lui a dit, tu m'annules ton événement. Elle dit, mais Seigneur, les chaînes de télévision, les radios, Dieu dit, tu annules. Elle a écouté, et le jour où l'événement allait avoir lieu, il y a eu une forte tornade et tout le stade s'est effondré. Tout le stade s'est effondré. Si elle avait quand même organisé son événement, il y aurait peut-être eu des morts à son événement, etc. L'adoration, la prière par l'adoration, la capacité à écouter Dieu, la capacité à être intime avec Dieu et à l'écouter. Comme ce fut le cas pour Moïse, comme ce fut le cas pour David. David avait pour habitude, à chaque fois avant d'aller en guerre, la Bible nous dit que David alla et consulta l'Éternel, toujours, parce qu'il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ce sur quoi nous sommes depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, nous avons ouvert un volet que nous avons intitulé « Comment développer notre intimité avec Dieu ». Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'importance d'avoir non seulement une intimité avec Dieu, mais aussi d'apprendre à reconnaître sa voix, d'apprendre à reconnaître quand il nous parle, d'apprendre à recevoir des directives de sa part pour pouvoir marcher avec lui. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit que la nouvelle création que nous sommes, c'est le résultat d'une communion, d'une fusion entre Dieu et l'humanité, conduite, dirigée, remplie d'une personne que l'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Jésus-Christ est venu, il est resté sur terre pendant 33 ans, il est reparti. Le Père, Abba, la source, le créateur de toutes choses, est resté assis sur le trône, il n'est jamais descendu. Il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Désormais, Jésus-Christ, qui était le Fils unique, n'est plus Fils unique. Il a maintenant d'autres frères et sœurs semblables à lui. Romains 8, verset 20. Romains 8, verset 20, qui dit que Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup d'entre frères. Et aujourd'hui, nous, les frères de Jésus, nous sommes semblables à lui. Nous sommes comme lui. Voilà pourquoi il a dit, « Lorsque je partirai, vous ferez des œuvres semblables aux miennes, voire même de plus grandes. » Et cette nouvelle création que nous sommes en Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Il est le paraclète, il est le conseiller et il est celui qui nous dirige. Nous avons parlé de ça. Nous avons dit également que l'intimité avec une personne implique le fait de lui ouvrir son cœur, le fait de lui donner son cœur. Et tout comme naturellement, tu ne donnes pas ton cœur à n'importe qui, tu n'ouvres pas ton cœur à n'importe qui, Dieu aussi n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Dieu n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au cœur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la pensée de Dieu. Tout le monde n'a pas ce privilège-là d'avoir accès à l'intimité de Dieu. Des gens comme Moïse avaient une intimité assez particulière avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde. On a dit que ouvrir ton cœur à quelqu'un, c'est lui donner accès à tes secrets les plus importants. Lui donner accès à ta nudité. Nous avons parlé de la nudité, ce que c'était que la nudité de Dieu. Accès à ton intimité, accès aux profondeurs de ton être. Accès au centre de contrôle de ta vie. Quelqu'un qui possède ton cœur contrôle ta vie. C'est pour cela que le roi Salomon, qui a compris cela, a dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si quelqu'un contrôle ton cœur, il te contrôle. Si quelqu'un contrôle ton cœur, il peut même anticiper. Il peut dire qu'il te connaît parfaitement. Il connaît tes pensées, ta façon de penser, ton fonctionnement. Il te connaît. Et Dieu n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Celui qui a accès au cœur de Dieu a accès à des secrets extrêmement importants. Il a accès à des secrets d'État même. Il a accès à des choses très importantes. Et c'est pour cela que Dieu dit « Cherche ma face ». C'est pour cela que j'ai compris que marcher avec Dieu tout au long de la vie, le plus important dans notre marche avec Dieu au cours de notre vie, n'est pas d'avoir ce qu'il peut donner, mais c'est de comprendre comment il pense. Dieu, il y a beaucoup de gens qui cherchent la main de Dieu, qui cherchent ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut donner. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à comprendre comment il pense. Et c'est ce que David nous montre dans les psaumes quand il dit souvent, « Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Seigneur, révèle-moi tes pensées. Instruis-moi sur la voie que je dois suivre. Fais-moi connaître tes voies. » Quand il dit « Fais-moi connaître tes voies », il est en train de dire « Fais-moi connaître ton cœur. » Fais-moi connaître la direction que tu veux que je prenne. Ce que tu peux donner, ça ne m'intéresse pas. Si tu le donnes, gloire à ton nom. Mais le plus important, c'est de comprendre comment Dieu pense. Donc, celui qui contrôle ton cœur, contrôle ta vie. C'est pour cela qu'il est très important de faire attention à qui on donne son cœur. Amen. Nous avons encore dit que seul le Saint-Esprit est celui qui peut nous donner accès au cœur de Dieu, aux profondeurs intimes de Dieu. Nous avons parlé du verset dans 1 Corinthiens, je ne sais plus la référence, qui dit que tout comme seul l'esprit de l'homme connaît les pensées du cœur de l'homme, de même seul l'esprit de Dieu connaît les pensées du cœur de Dieu. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler les pensées du cœur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important pour nous d'avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit au quotidien, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner cet accès-là. Et si nous n'avons pas cette communion avec lui, on ne peut pas avoir accès. Le Saint-Esprit et Dieu, le Père, sont une seule et même personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Et être intime avec Dieu, nous avons dit que c'est connaître ses pensées. Être intime avec Dieu, c'est connaître comment il pense, comprendre son fonctionnement, anticiper même son fonctionnement. Et pour pouvoir développer cette communion avec lui, nous avons abordé deux points, dont le premier, c'était je dois apprendre à dialoguer régulièrement, voire quotidiennement, systématiquement avec lui tous les jours. Qu'est-ce que dialoguer avec le Saint-Esprit? Eh bien, c'était ça, tout simplement lui partager nos expériences au quotidien, de façon permanente. Être là avec lui. Je vous assure, ça a l'air simple comme ça, mais c'est la clé. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Dialoguer avec le Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit. Le faire de manière pratique. Discuter avec lui comme quand on discute avec quelqu'un. On tisse des liens d'amitié profonde avec Dieu en partageant avec lui toutes nos expériences durant la journée. Tout au long de la journée, tu parles avec lui. Tu lui fais part de tes problèmes, tu lui fais part de tes défis, tu lui fais part des obstacles que tu rencontres durant la journée, tu lui fais part des dossiers que tu as traités. Même dans les moindres choses, dialoguer avec le Saint-Esprit. Et le deuxième point, c'était tu dois continuellement méditer sa parole. La prière est le moyen par lequel nous parlons avec Dieu, par lequel nous lui posons des questions. La méditation est le moyen par lequel Dieu te répond. C'est ce que nous avons dit, si je peux le résumer ainsi. Et les amis intimes partagent les secrets les plus intimes avec Dieu aussi au travers de sa parole. Parce que toute la pensée, tout le cœur de Dieu, tout ce que Dieu pense à notre sujet, il l'a résumé dans un livre que nous appelons la Constitution du Royaume, que nous appelons la Bible. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Troisièmement, je dois choisir d'être honnête pour développer ma communion avec le Saint-Esprit, pour développer ma relation avec lui, pour développer une relation intime avec lui, profonde avec lui. Je dois dialoguer, c'est-à-dire je dois parler avec lui. Je dois méditer sa parole. Et troisièmement, je dois choisir d'être honnête. Qu'est-ce que c'est que être honnête avec Dieu? L'honnêteté. Dieu ne marche pas avec les gens qui ne sont pas honnêtes. Honnête envers eux-mêmes déjà, mais honnête aussi envers lui. Si tu veux tisser des liens plus étroits avec Dieu, tu dois apprendre à lui confier honnêtement tes sentiments, à compter sur lui lorsqu'il te demande de faire quelque chose et à désirer son amitié plus que tout. L'honnêteté est une qualité importante dans notre marche avec Dieu. L'honnêteté consiste à dire à Dieu, Seigneur, voici mon état, je reconnais que je n'y suis pas encore, mais je te rends grâce, je te rends gloire quand même, parce que je crois que tu feras bien au-delà de ce que je peux imaginer. Être honnête avec Dieu veut dire être transparent. Lorsque nous avons une relation avec un ami, la plupart du temps, regardons les amis que nous avons autour de nous, les gens que nous appelons amis, on n'est pas toujours transparent avec eux. On n'est pas toujours honnête avec eux. On ne leur dit pas toujours la vérité. On ne leur révèle pas toujours notre intimité. Mais lorsque l'on marche avec Dieu et qu'on a une relation étroite avec lui et que Dieu veut nous utiliser, il attend de notre part aussi que nous soyons vrais, que nous soyons sincères. Et quand on prend le temps de regarder l'histoire des gens que Dieu a appelés mes amis dans la Bible, des gens comme Abraham, des gens comme David, des gens comme Enoch, des gens comme Job, c'est des gens qui étaient honnêtes. C'est des gens qui étaient vrais. Quand ils voulaient bouder, ils boudaient. Quand ils voulaient dire à Dieu leur quatre vérités, ils disaient à Dieu leurs quatre vérités. Prenez simplement le livre de Job et vous vous rendrez compte à quel point ce gars passé son temps à se plaindre et à faire des reproches à Dieu. Il était honnête. Et l'honnêteté n'est pas un signe de faiblesse. Tu peux avoir une vie qui n'est peut-être pas au reflet de la parole agréable à Dieu, mais Dieu attend de toi que tu sois honnête. Dieu attend de toi que tu sois sincère et que tu puisses lui avouer. Psaume 32, je crois, verset 1, dit « Heureux celui que l'Éternel admet dans sa présence, heureux celui à qui les fautes sont pardonnées, celui qui les avoue. » ses fautes sont pardonnées. Et celui-là est heureux parce qu'il a fait preuve d'honnêteté. Amen. Donc, dans la Bible, l'honnêteté revient très, très souvent. David nous dit dans le psaume 22, verset 2, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges. » Voici quelqu'un qui se plaint. Il fait preuve d'honnêteté. Job, lui, il dit encore, « Périsse le jour où je suis né. » Job, verset 3, chapitre 3, au verset 2. « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. » Job se plaignait tout le temps. Et les gens comme ça, souvent quand on les regarde, on a tendance à croire qu'ils sont désagréables à Dieu. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que Job était désagréable à Dieu lorsqu'il avait cette attitude. Job n'était pas du tout désagréable à Dieu. Dieu le regardait et Dieu écoutait patiemment ce qu'il disait. Il était en train d'exprimer simplement son amertume, simplement ses regrets, ses doutes, sa douleur, mais il faisait preuve d'honnêteté. L'honnêteté, je dois choisir d'être honnête avec Dieu. Et celui qui est honnête avec Dieu, celui qui est vrai, celui qui est transparent avec Dieu, est agréable à Dieu. Particulièrement quand tu veux le servir. Le jour où le Seigneur m'a appelé à le servir, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais pas où on va. Je peux faire autre chose. On peut bâtir autre chose. On peut faire tout un tas de choses, mais te servir comme tu le demandes, je ne sais pas si j'y arriverai. Et là, le Seigneur me répond, mais fils, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi, ça. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est obéir. C'est tout. Tu obéis et tu avances, comme Abraham le fit. Isaac dit à son père, « Papa, je vois le couteau, je vois ce qu'il faut pour pouvoir faire, pour pouvoir allumer le feu, mais je ne vois pas l'agneau. » Et Abraham dit, « Dieu se pourvoira lui-même, fils. Dieu se pourvoira lui-même. » Voilà, l'honnêteté. Et parfois, face à certains événements, on peut ressentir de l'amertume, de la colère, du doute. Mais notre maturité spirituelle de nous amener toujours à reconnaître la bonté et la fidélité de Dieu, malgré les circonstances et ce qu'on peut ressentir. Notre maturité spirituelle. L'honnêteté avec quelqu'un, c'est lui dire non seulement la vérité, c'est lui dire non seulement la vérité par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on pense, mais c'est aussi ne pas remettre en doute sa fidélité vis-à-vis de nous. Ce n'est pas parce qu'on fait des reproches à Dieu qu'il n'est pas fidèle. C'est normal d'aller dans la présence de Dieu et de se plaindre. C'est normal d'aller dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, là, je ne suis pas d'accord. Seigneur, regarde ma vie. Regarde comment je souffre. Regarde ce par quoi je passe. Regarde cette douleur. Pourquoi as-tu permis que ça arrive? Je ne suis pas d'accord. Mais, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et l'honnêteté consiste à ne jamais, consiste à non seulement exprimer ce que nous ressentons, mais surtout à ne pas remettre en doute la fidélité de Dieu. Gloire à Dieu. Quatrième point, je dois lui obéir. L'obéissance. Je dois lui obéir. Par la foi. L'obéissance est une clé. L'obéissance est un aspect crucial dans notre relation avec Dieu. L'obéissance. Jésus-Christ a dit, vous êtes mes amis, le verset que nous avons lu tout à l'heure, si vous faites ce que je vous commande. L'obéissance, chaque fois que tu fais ce que Dieu dit, même sans comprendre ce qu'il t'a demandé de faire, tu approfondis ton amitié avec le Seigneur. Un jour, j'ai posé une question au Seigneur et je lui ai demandé, Seigneur, comment faire pour être plus intime avec toi? Je veux aller plus en profondeur avec toi. Je veux mieux te connaître. Je veux t'expérimenter d'une manière différente. Je veux monter le niveau avec toi spirituellement. Je refuse que la fin de l'année soit la même que le début de l'année. Je veux avoir une intimité plus profonde avec toi. Le Seigneur me dit, obéis. L'obéissance. Oui, consacre-toi. Oui, passe du temps dans la prière. Il y a des gens qui passent des nuits entières à prier, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui passent des heures à prier. Est-ce que tu sais que tu peux passer des heures à prier sans avoir touché le cœur de Dieu? Ne serait-ce qu'une seconde? Parce que très souvent, on prie de façon religieuse. Très souvent, on prie de façon religieuse. Je vais vous donner un exemple. Regardez la parabole des deux hommes qui vinrent prier. Le premier vint, c'était un pharisien, raconté par Jésus. Je ne me rappelle plus du passage. Et il dit, Seigneur, regarde ma vie. Je jeûne, je prie, je vais à la synagogue tous les jours, je paye ma dîme, etc., etc. Et il y a un autre qui vint, qui ne dit pas beaucoup de discours, mais qui dit, Seigneur, pardonne le pécheur que je suis, pardonne. Et la Bible dit qu'il se frappait la poitrine en disant cela. Et Jésus-Christ dit que celui-là trouvera grâce aux yeux de Dieu. Il trouvera grâce aux yeux de Dieu. Parfois, on n'a pas besoin de dire beaucoup de paroles. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Il y a des fois, quand tu pries, tu peux juste tenir dans la présence de Dieu et tu es là, tu ne dis rien. Tu peux rester une heure, tu dis rien. Tu es juste là et tu penses. Très souvent, nous faisons des prières monologues. Nous prions, nous disons beaucoup de choses. On prie, rababababa, on dit plein de choses, on crie à casser le plafond, etc. On dit tellement de choses, mais on ne laisse jamais le temps à Dieu de parler. On ne laisse jamais le temps à Dieu de parler. La prière est un dialogue. La prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. Moi, quand je prie, je m'efforce, bien entendu, de parler, de dire des choses. Mais quand j'ai fini de parler, je m'efforce de rester dans le calme et rester là à méditer, à penser et à recevoir de la part de Dieu. Donc, chaque fois que tu obéis, tu développes une intimité profonde avec Dieu. L'obéissance est une clé. L'obéissance est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Et le plus souvent, nous associons l'obéissance à une relation que nous avons avec quelqu'un qui est supérieur à nous, un parent, un patron, ou bien dans le cadre professionnel, mais très rarement à une relation amicale avec quelqu'un. La relation amicale que nous avons avec quelqu'un, le plus souvent, on la met au même niveau que nous. Et qu'elle soit contente ou pas contente, on se dit, ah, tant pis, je peux ne pas lui obéir, ça ne changera rien. Mais Dieu est notre ami, mais il n'en demeure pas moins que il n'en demeure pas moins que nous lui devons obéissance et soumission. Amen. Donc, nous obéissons à Dieu non pas par devoir, ni par obligation, mais parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Et parce qu'on croit qu'il connaît ce qui est le mieux pour nous. Il connaît ce qui est le mieux pour nous. Donc, Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux actes que l'on pose. Il ne regarde pas, bien qu'il soit aussi important. Mais il regarde d'abord à notre disposition de cœur. Tu peux... Là, la toute première chose que Dieu regarde lorsqu'il veut utiliser quelqu'un ou lorsqu'il veut te révéler quelque chose, il va d'abord regarder ta capacité à obéir. Rappelons-nous l'histoire de Saül qui était sur le point de voir son royaume passer à une nouvelle dimension mais qui fit preuve de désobéissance en sacrifiant les animaux et en ne faisant pas ce que Dieu lui avait demandé. Et là, le prophète lui dit une parole que nous connaissons tous très bien, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On connaît cette parole, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 19, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'obéissance est la première preuve d'amour que l'on peut montrer à Dieu. La première preuve d'amour. Et ça, quand on regarde la vie de beaucoup, on se rend compte que l'obéissance n'est pas toujours au rendez-vous. Et l'obéissance touche, parce que beaucoup pensent que l'obéissance s'arrête seulement à la sanctification. Je veux me sanctifier, je ne vais pas coucher à gauche, à droite. Mais l'obéissance ne se limite pas seulement à ça. L'obéissance va même dans les plus petites choses. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, si vous êtes trouvés fidèles dans les petites choses, on vous confiera même les grandes? Si tu es trouvé fidèle dans ce qui est à autrui, on te confiera demain ce qui est à toi, l'obéissance. L'obéissance. Et l'obéissance ne touche pas seulement la sanctification ou les relations hommes-femmes que nous avons avec les autres. C'est même dans les plus petites choses, la manière dont tu gères tes finances, la manière dont tu te comportes vis-à-vis des autres, la manière dont tu te comportes à l'église, sur ton lieu professionnel, les choses que tu regardes à la télévision, les actes que tu poses dans le secret, tout ce que tu fais, Dieu regarde toujours si tu es quelqu'un d'obéissant. L'obéissance est la clé. L'obéissance est une clé. Et le cœur de la véritable adoration repose dans l'obéissance et la soumission à ce que Dieu demande. L'obéissance, est-ce qu'on peut dire avec moi l'obéissance? L'obéissance est le fruit d'une crainte profonde avec Dieu. David nous dit ceci dans un verset que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué au début de ma conversion, dans le psaume 25 au verset 14, qui dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. La crainte et l'amour pour Dieu vont de pair. Ce sont les fondements d'une amitié solide avec Dieu. » La crainte et l'amour. La crainte et l'amour découlent de l'obéissance. C'est parce que je crains, c'est parce que j'aime que j'obéis. Si je ne crains pas, je n'obéis pas. Si je n'aime pas, je n'obéis pas. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et l'amour n'est pas un sentiment, juste un sentiment. L'amour est un commandement. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, par exemple, dans le cadre du mariage, par exemple. Dans le cadre du mariage, dans le cadre de l'amour que nous avons avec notre conjoint, on ne comprend pas que au début, tout est rose. C'est le costume gris, la robe blanche. Tout le monde est content. Mais le temps vient où cet amour ne sera plus limité à un sentiment. Cet amour devra être le résultat d'une obéissance parfaite à un commandement que Dieu a donné. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, respecte ton mari. L'amour est un commandement. Si moi, aujourd'hui, je suis avec mon épouse, bien sûr que je l'aime, bien sûr que je ressens quelque chose dans mon cœur, mais j'obéis avant tout à un commandement que Dieu m'a donné. Amen. C'est un commandement avant tout. Et la crainte et l'amour découlent d'une obéissance à un commandement que Jésus-Christ a donné. Et même quand les autres ne voient pas ce qu'on fait, Dieu, lui, il remarque tout ce qu'on fait, même dans le secret. Il voit si nous sommes obéissants ou pas. Et c'est ça qui détermine notre intimité avec Dieu. Ça ne sert à rien de venir se tenir devant les gens et de montrer aux gens que toi, tu es plus intime. Tu peux même être assis au fin fond de la salle, mais avoir une intimité beaucoup plus profonde avec Dieu que celui qui tient le micro. Oh oui. Et celui qui a cette intimité-là avec Dieu te regarde. Il est personne dans l'église, mais là où il est assis, Dieu lui révèle que celui qui tient le micro actuellement n'a pas d'intimité avec moi. Il s'est même éloigné de moi. L'intimité avec Dieu. Et cette obéissance, cette intimité se voit dans les plus petites choses, telles que dire la vérité, être aimable envers les autres, encourager les autres, la maîtrise de soi, la patience, la bonté envers les autres, la manière dont on répond aux autres. Il y a quelques jours, il y avait beaucoup de bruit dans une maison à côté de chez moi et c'était un vrai vacarme et ça devenait assourdissant. Et là, je sors et je vais cogner. Et ces personnes, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Quand on est, parce qu'on habite à côté de chez eux, ils ont souvent l'habitude de mettre des chants chrétiens, des chants religieux. Le monsieur, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Ils vont à l'église, hein, s'il vous plaît. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Et là, je viens, je sonne à leur portail. Et c'est madame qui m'ouvre. Et je demande à madame, mais madame, tout va bien ici? Elle me fait, oui, vous voulez quoi? Déjà, je dis bonjour. Bonjour, madame. Elle ne me répond pas. Et elle dit, oui, vous voulez quoi? Je dis, ok, d'accord. J'ai dit, mais tout va bien? Parce qu'il y a beaucoup de bruit chez vous. Et si tout va bien, est-ce que vous pouvez juste demander à... Est-ce que vous pouvez juste faire moins de bruit? Parce que nous, en face, c'est assez gênant pour nous. Elle m'a regardé, elle m'a chippé deux fois et elle m'a claqué la porte. J'étais étonné. Mais pourtant, c'est la même personne que je voyais avoir, la même personne que je voyais mettre les chants chrétiens à fond. Donc, ça, j'avais en face de moi quelqu'un qui se prétend être chrétien, mais qui n'a pas l'essence même d'un vrai chrétien. Et là, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui certainement est dans la religion. L'obéissance est préférable au sacrifice. Et l'obéissance se voit même dans les plus petites choses. Cinquièmement, pour développer ma communion avec Dieu, je dois avoir soif. Et on va atterrir avec ça. Je dois avoir soif. La soif, et là vraiment, je voudrais vraiment nous interpeller, la soif est quelque chose d'extrêmement puissant pour pouvoir faire intervenir, pour pouvoir débloquer les choses, faire intervenir Dieu dans notre vie. On voit beaucoup de gens qui agissent, qui se comportent de façon religieuse dans leur relation avec Dieu. Mais on ne voit pas beaucoup de gens qui ont soif. Je vous assure, quand vous avez soif, vous savez reconnaître les gens qui ont soif. Quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui cherche Dieu passionnément. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29 au verset 9, je crois, il dit, « Je me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. » Voici la condition pour pouvoir amener Dieu à se révéler. Le chercher de tout son cœur. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est quoi? La soif va t'amener à faire des choses en décalé même. La soif va t'amener à prier des nuits entières sans compter le temps. La soif va t'amener à poser des actes alors que d'autres sont en train de s'amuser. La soif va t'amener à chercher Dieu d'une manière différente. La soif va t'amener Dieu à le servir d'une manière différente. La soif. David dit dans le psaume 27 au verset 4, il dit, « Je ne demande qu'une chose au Seigneur. Je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. » La soif, c'est ce que Dieu demande de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Les gens qui expérimentent des choses puissantes avec Dieu, ce sont des gens qui ont soif. Lorsque vous voyez un homme que Dieu utilise puissamment dans le monde, c'est quelqu'un qui a soif. C'est quelqu'un qui a soif et qui a su mourir à lui-même. La soif nous amène à mourir à nous-mêmes. La soif nous amène à mourir à nos passions, nous amène à mourir à nos désirs pour ne désirer que ce que Dieu désire, pour ne chercher que ce que Dieu cherche. La soif est la meilleure manière d'attirer Dieu dans notre vie, c'est la soif. La soif. Paul dit dans Philippiens 3:10, « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » Paul avait soif. Quand on prend le temps de lire l'histoire de Paul, qui est l'un de mes personnages préférés de la Bible, quand on prend le temps de lire son histoire, c'est quelqu'un qui avait vraiment soif. C'est quelqu'un qui était passionné. C'est quelqu'un qui était déjà mort. De son vivant, il était mort. De son vivant, il se déclarait mort pour Dieu. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De son vivant, il avait décidé de s'abandonner, de donner totalement sa vie à Dieu. La soif. Et lorsque Paul dit, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. Le mot connaître ici, c'est le mot grec ginosko. Ginosko qui veut simplement dire avoir une expérience intime avec quelqu'un. C'est le mot qui se rapproche un peu du mot que nous avons vu la semaine dernière, yada, yad, qui veut dire aussi connaître quelqu'un de manière intime. C'est le même mot utilisé dans Genèse 4 au verset 1, lorsqu'il est écrit que Adam connut sa femme. Adam eut une relation sexuelle avec sa femme. Il l'a connue. Et le mot équivalent ici que Paul utilise, c'est le mot ginosko, qui veut dire avoir une expérience intime avec quelqu'un. Donc, je veux expérimenter Christ et la puissance de sa résurrection. Je ne veux pas juste en entendre parler, mais je veux l'expérimenter de manière intime. Est-ce qu'on me suit? Je veux l'expérimenter de manière intime. La soif. Expérimenter Christ est la plus belle chose que l'on puisse vivre dans notre vie. Pas juste le connaître de manière théorique, mais à parvenir à la révélation de sa personne et l'expérimenter au point de voir notre vie être totalement bouleversée. Et moi, je voudrais nous interpeller et nous amener à nous examiner. Parce que ce message-là, cette parole-là, elle a pour unique objectif de nous amener à nous remettre en question, de nous amener à nous réétudier, à nous examiner et à nous poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment soif de toi? Si je n'ai pas suffisamment soif de toi, alors augmente ma soif. Les disciples sont venus et ils ont dit à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. Augmente ma soif. Amène-moi à te chercher de manière plus intime. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour découvrir Dieu? Jusqu'où ton service va-t-il pour Dieu? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Qu'es-tu prêt à sacrifier? Si aujourd'hui Dieu t'appelle, es-tu prêt à tout sacrifier pour lui? Es-tu prêt à tout sacrifier pour lui? Voici des bonnes questions à nous poser. Est-ce que la soif que j'ai de lui, quand je regarde ma vie, quand je regarde ma vie de prière, quand je regarde ma vie au quotidien, est-ce que ma vie aujourd'hui reflète celle de quelqu'un qui a vraiment soif? De quelqu'un qui désire vraiment connaître Dieu, qui désire vraiment voir les choses changer, qui ne veut plus. C'est-à-dire, quand vous êtes un véritable adorateur, parce que depuis un mois maintenant, ce sont des véritables adorateurs dont nous parlons ici. Je vous assure, mon épouse et moi, nous avons fait beaucoup d'églises à Libreville. On a pris le temps, pendant un temps, de faire un peu le tour de beaucoup d'églises. Il y a de belles églises, hein. On ne remet pas en question le fonctionnement de certaines églises, etc. Pas du tout. Chacun fait comme Dieu le conduit. Mais quand on regarde le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises, je vous assure, on se pose beaucoup de questions. Si je vous dis que dans toutes les églises que nous avons rencontrées, dans lesquelles nous sommes allés, aucune, nous sommes allés dans, je ne sais pas combien d'églises, nous n'avons rencontré aucune église où, pendant les temps de louange, d'adoration, les gens sont debout ou prosternés. Dans la plupart des églises, quand vous allez dans Libreville, les gens sont assis. J'ai pour habitude de dire ça, il n'y a que dans l'église où on voit des adorateurs assis. Quand on va dans les autres religions, ils sont soit couchés par terre, soit à genoux. Mais il n'y a que dans les églises où on trouve des adorateurs assis. L'adoration va aussi dans le sens de notre attitude. Elle ne consiste pas seulement dans le cœur, mais elle va aussi dans le sens de notre attitude. Et notre manière d'être exprime aussi l'état de nos cœurs. Et notre attitude dans l'adoration démontre aussi notre désir de toucher le cœur de Dieu. Et un jour, je parlais avec un responsable d'église, un pasteur, et je lui disais, mais c'est la deuxième ou la troisième fois que je viens dans ton église, mais pendant les temps d'adoration, même vous, les responsables, tout le monde est assis. Mais je suis persuadé que si le chef d'État, Ali Bongo Ondimba, rentrait ici, tout le monde se lèverait. Ça, c'est sûr et certain. Et pendant l'adoration, tout le monde est assis. Les gens ont les yeux ouverts, il y en a qui sont sur leur portable. Il y en a qui parlent avec les enfants, etc. Et je leur dis, est-ce que vous êtes en train de rendre un culte agréable à Dieu quand vous faites ça? Et en fait, on s'est rendu compte que l'adoration, ce n'est ni plus ni moins que quelque chose de religieux, en fait, pour les gens. C'est un moment d'animation. C'est un moment musical où on anime cette partie du culte. Et le seul moment le plus important du culte, c'est quand le pasteur prend le micro. Alors là, on a l'attention de tout le monde, hein, s'il vous plaît. Mais les gens n'ont pas compris que le moment d'adoration dans le culte, c'est un moment qui n'est pas pour Dieu. C'est un moment qui est pour les hommes. La première partie du culte avant le message tout ça, c'est le moment dédié à Dieu. Donc, c'est durant cette partie du culte-là que notre attitude doit être sincère et profonde vis-à-vis de Dieu. On doit adorer, on doit avoir d'autres couchés par terre, on doit avoir certains à genoux, on doit avoir certains en train de pleurer, on doit avoir d'autres les mains levées, etc. Mais le moment de parole est un moment, effectivement, où on peut s'asseoir, avoir les yeux ouverts et écouter l'homme de Dieu parler. Mais le moment d'adoration est le moment le plus important. C'est le moment où on vient rendre un culte au Seigneur. Et quand on vient rendre un culte au Seigneur, regardez simplement l'attitude des gens. Je vous assure, c'est dans les plus petites choses. C'est dans les plus petites choses que Dieu voit que Dieu voit si nous sommes de véritables adorateurs ou pas. Oui. Oui, c'est dans les plus petites choses. La manière dont on prépare notre culte. La manière dont on vient au culte. La manière dont on médite sa parole au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, en fait. C'est quelque chose qui nous attriste beaucoup. Parce que je me pose des questions. Mais un jour, Dieu me dit, Luc, mais pourquoi tu t'attristes par rapport à ça? Par rapport à mes enfants, par rapport à l'église? C'est parce que les gens n'ont pas reçu la révélation de la louange et de l'adoration dans l'église. Ils n'ont pas été enseignés par rapport à ça et ils n'ont pas reçu la révélation de ça. Moi, j'ai servi le Seigneur pendant 11 ans dans une église, quelque part à l'étranger, dans le ministère de la louange et de l'adoration. Et c'était des combats perpétuels avec les autorités de l'église. Pour la simple bonne raison que nous, on avait une vision de la louange et de l'adoration ministérielle. Eux, ils avaient une vision animation. Vous animez le culte, et puis vous arrêtez à tel moment, et puis vous passez derrière, et puis c'est l'homme de Dieu après qui prend le micro. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr, il y a un programme à respecter, mais l'adoration est bien plus qu'un temps d'animation. C'est bien plus qu'un temps d'animation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les églises, les temps d'adoration et de louange ne sont pas... Il n'y a plus cette profondeur-là, je vous assure. C'est-à-dire, dernièrement, on était dans une église où on reste une heure, pendant une heure. Il n'y a même pas un temps où, à un moment, on va rentrer dans l'adoration prophétique ou la louange prophétique. C'est-à-dire, c'est juste du bruit. C'est juste du bruit. C'est-à-dire, c'était un temps de prière. C'était une soirée organisée par l'église. Spécialement, ils avaient dédié cette soirée spécialement à la louange et à l'adoration. Mais pendant plus d'une heure, je suis resté là. T'as dit, c'est du bruit. Et puis, on parle. Il faut que la personne parle. J'avais juste envie de dire, mais arrête de parler. Parce que tu nous fatigues les oreilles. Arrête de parler. Chante. Bien prêt. Et laisse-nous adorer. Et puis, après, le pasteur vient, il prend le micro. Et il crie. Non. Que tout le monde cherche Dieu. Prosterné par terre. Cherchons-le de tout notre cœur. Laissons-nous diriger, conduire par lui. Laissons-le parler à chacun. Et comme j'aime souvent dire, lorsque Dieu vient, il vient avec ses paquets. Toi, il va te donner ça. Toi, tu as tel besoin, il va te donner ça. Toi, tu as tel souci, il va te donner ça, etc., etc. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'adoration. L'adoration. Et cette soif-là, si elle s'est éteinte, si elle a disparu, alors je nous encourage à aller devant la face de Dieu et à dire, Seigneur, rallume cette flamme-là qui s'est éteinte. Ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière sincère et profonde vis-à-vis de Dieu. Seigneur, rallume cette prière. Est-ce que vous connaissez ce chant de Tabitha Lemaire qui dit « Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. » On connaît ce chant. Un très beau chant. C'est une prière. Seigneur, viens ranimer. Ranime le feu. Paul dit à Timothée dans le premier et le deuxième livre de Timothée, « Timothée, ranime la flamme. Garde le dépôt. » Quel dépôt il parle? Cette passion-là, cette foi-là que tu avais au début, ne la laisse pas s'éteindre par les mauvaises fréquentations, par les médisances, ne la laisse pas s'éteindre. Parce que c'est cette soif-là qui va te garder avec Dieu. Garde cette soif-là. Garde cette passion-là. Moi, je prie toujours, je dis toujours, Seigneur, quelle que soit la direction que prendra notre avenir, quelle que soit la réussite que l'on connaîtra plus tard, accorde-moi la grâce, quel que soit le matériel, l'argent, les connexions, quelle que soit la vie que j'aurai demain, accorde-moi de toujours avoir la même passion pour toi. De toujours garder cette simplicité-là. De ne pas chercher les matuvus, les artifices, ou de faire comme les autres font. Un jour, je parlais avec un serviteur de Dieu très éminent, quelqu'un de très, très connu dans le monde, et que j'aime beaucoup, et j'ai eu l'occasion de parler avec lui, et je lui ai dit, ok, si tu avais un conseil à me donner par rapport à la suite, quel conseil me donnerais-tu? Et là, il me répond, quelque chose qui m'a vraiment marqué, il me répond, reste toi-même. Reste toi-même vis-à-vis de Dieu. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à imiter les autres. Reste toi-même. Parce que Dieu t'aime tel que tu es. Garde cette passion-là que tu as quand tu es encore jeune. Et dans 10 ans, tu auras peut-être vieilli. Mais que ta passion n'ait pas bougé d'un pouce. Garde-la. Les gens viendront te complimenter. Les gens parfois te jetteront des peaux de banane. Les gens parfois te critiqueront. Les gens pourront dire de fausses choses à ton sujet. Mais la passion que tu as pour Dieu, garde-la. Garde-la. Car Dieu y tient particulièrement. David dit dans le psaume 42, verset 2, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Nous devons avoir soif, les amis. Et en cette fin d'année, particulièrement, c'est ce à quoi je nous invite. Je nous invite à aller, chacun d'entre nous, à nous examiner, à aller chez nous dans nos maisons et à dire, « Oh Dieu, 2013 a été une année comme ci, comme ça pour moi. Mais que 2014, si tu choisis que 2014 soit une nouvelle saison pour moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être plus assoiffé de toi. Accorde-moi la grâce de te chercher d'une autre manière. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. On va incliner la tête, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta parole. J'ai soif de toi, Seigneur. Alléluia. Et tu veux te demander d'élever la voix. D'élever la voix en toute simplicité de cœur. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Simplement lui dire, Père, voici, tu m'appelles à faire certaines choses. Tu m'as enseigné, tu m'as appris certaines choses dans ma vie. Tu m'as enseigné certaines choses. Et aujourd'hui, Seigneur, je désire te connaître encore plus. Notre capacité à crier à Dieu, à crier après lui, va déterminer aussi la nouvelle saison dans laquelle nous allons rentrer, la nouvelle saison dans laquelle tu vas rentrer. Et ma prière, c'est que ta soif soit encore plus grande. Que 2014, lorsque l'on te reverra, qu'on puisse voir quelqu'un d'assoiffé, quelqu'un de passionné envers Dieu. Alléluia.
Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon âme de ta présence. Remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.